Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et oui, car nous recevons le grand écrivain égyptien. Le plus grand écrivain égyptien.
Merci, moi, je sais que
vous êtes modeste à la Soigny. Bonjour. Vous publiez J'ai couru vers le Nil. Les lecteurs du monde entier vous ont connu avec l'immeuble Yacoubian. Je dois dire que c'est un livre qu'on a trouvé formidable au matin.
Merci.
J'ai couru vers le Nil. Je vais essayer de le résumer à grands traits. C'est un roman choral. On suit plusieurs personnages. Je vais en choisir trois. Le premier est un général corrompu, un général qui incarne la dureté du régime. On le suit dans des événements qui sont antérieurs à la place Tahrir, à partir de 2011. Autrement dit, c'est l'histoire de cette révolution manquée selon vous. Vous allez nous expliquer pourquoi elle a soigné. L'autre personnage important pourrait être un acteur. Lui, c'est un acteur raté. Il incarne en quelque sorte la société égyptienne bloquée, dans laquelle on ne peut pas réussir en fonction de ses talents, mais où l'on réussit en fonction de sa naissance ou en fonction de sa capacité à corrompre les uns ou les autres. Et
Absolument.
Puis, l'autre personnage qu'on pourrait considérer comme étant central dans ce livre, c'est une étudiante qui manifeste l'envie de changement de la jeunesse, une envie qui va être très largement frustrée. Ce livre, il s'intitule « J'ai couru vers le Nil » en français. Il est traduit de l'arabe par Gilles Gauthier. En arabe, il s'intitule « La République comme si ».
Oui.
Pourquoi « La République comme si » ? Est-ce que ça signifie que c'est une fausse république, que cette révolution, votre révolution égyptienne à la El-Soigny, elle a échoué ?
Non. C'est pas que la révolution a échoué, c'est que pourquoi j'ai choisi « La République comme si » ? Parce que dans une dictature, c'est ça l'idée principale. Tout paraît comme si c'était réel. Et rien n'est réel. Vous voyez? Et ça commence des élections de monsieur le président. Que tout le monde sait que c'est pas juste, que ce sont une pièce de théâtre, si vous voulez. Et ça continue ce qui est dans une dictature, ce qui est vraiment très dangereux. Que cette hypocrisie, ces mensonges continuent du niveau politique jusqu'au niveau social, jusqu'à la vie quotidienne. Il y a toujours une grande différence entre l'image et la réalité dans une dictature. Ce qui se fait pas dans une démocratie, parce que l'image, toujours, dans une démocratie, reflète la réalité. Alors c'est pour cela que j'ai choisi la République comme si. Hein. C'est une société sous une dictature que tout paraît comme si c'était réel, mais rien n'est réel.
Vous êtes dans une situation un peu paradoxale à la Soigny. Vous êtes connu dans le monde entier. Vos livres sont traduits dans 20 langues.
37.
Vous voyez, je me suis trompé. Est-ce que J'ai couru vers le Nil va être publié en Égypte ?
Non, c'est malheureusement, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que ma maison de publication a eu peur et ils ont demandé le changement et j'ai refusé. J'ai dit, je vais rien changer.
Ah oui, qu'est-ce qu'ils voulaient que vous changiez ?
Ils voulaient changer des choses, mais j'ai pas vraiment écouté. Parce que dès qu'ils ont commencé à dire des choses pareilles, j'ai dit, écoutez, vous savez qu'est-ce que ça veut dire une virgule? Alors il m'a dit oui. Et j'ai dit, je vais jamais changer une seule virgule dans le texte. Alors, une autre maison de publication a eu peur après avoir signé. Et à la fin, j'ai publié à Dar el Adeb à Beyrouth, et c'est la même maison de publication qui a publié le roman interdit par Naguib Mahfouz il y a 40 ans. Mais ce qui est triste et intéressant à la fois, c'est que ce roman officiellement est interdit dans tous les pays arabes, sauf trois pays.
Lesquels ?
Le Liban, la Tunisie et le Maroc. Seulement, officiellement, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que, ou bien les dictatures se sentent une solidarité, ou bien à cause du rôle que j'ai présenté, le rôle des islamistes dans la contre-révolution. Alors, les pays où il y a les islamistes ont vraiment une existence politique, alors ils refusent de publier le roman, de le vendre.
Pour vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas à la El-Soigny, vous êtes dentiste.
Oui.
Vous avez d'ailleurs exercé le métier de dentiste il y a
encore
peu de temps. Actuellement, vous êtes à l'étranger, vous vivez à New York, mais d'ordinaire, quand vous vivez en Égypte...
Oui, j'ai mon cabinet dentaire, et je garde mon cabinet dentaire, et j'ai décidé, maintenant je suis à New York parce que j'enseigne littérature dans quelques universités américaines, mais je garde mon métier, c'est mon deuxième métier, à mon avis, je suis écrivain qui est dentiste. Vous voyez, et pas le contraire. Alors, parce que je voulais être écrivain dès le commencement. Mais
et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Mon père était écrivain et avocat. Alors lui, il m'a expliqué que vous devez avoir un autre métier. Parce que faire gagner sa vie à travers la littérature, c'est presque impossible en Égypte. Vous voyez. Et je dois dire ici que je suis un cas exceptionnel. Parce que je vends... dans tout le monde, vous voyez, alors ça amène de l'argent. Mais normalement, même Nagui Mahfouz, qui a eu le prix Nobel, devait avoir travaillé pour le gouvernement jusqu'à la retraite. Alors, je devais avoir un autre métier. Et le métier de dentiste m'a beaucoup aidé comme écrivain. Parce que vous voyez beaucoup de gens, vous voyez, vous discutez, vous voyez des gens très différents. Et aussi, je dois dire, parce que quand j'ai dit ça, les gens me disent, mais le dentiste n'a jamais le temps d'écouter les gens parce que, Dès qu'on entre chez le dentiste, il dit ouvrez la bouche s'il vous plaît. Mais je dois dire que je suis un peu différent parce que j'écoute mes patients, on devient des très bons amis. Parfois ou plusieurs fois, ils viennent et ils disent que on veut pas faire rien. Et c'est très bien, on commande un café, on parle, n'y a aucun problème.
C'est peut-être pourquoi vous connaissez si bien la société égyptienne, puisque au travers de ce roman « J'ai couru vers le Nil », il y a véritablement une coupe de la société égyptienne. L'un des personnages que l'on suit tout au long de ce roman, c'est le général Alouani. C'est un chef tout puissant, il dirige une organisation, le service de sécurité de l'État, il torture, il se considère comme étant un bon musulman, comme quelqu'un de pieux, et sa seule faiblesse, c'est sa fille, puisqu'il est très attendri par sa fille, alors même qu'il incarne à peu près tous les maux du régime, la violence, la kleptocratie. Je crois que c'est important d'insister sur le niveau de corruption du régime. Pourquoi avoir choisi de peindre ce personnage? C'est un personnage qui a disparu avec l'arrivée d'Al-Sissi au pouvoir?
Non, du tout. C'est un personnage qui est au pouvoir maintenant. C'est exactement ce personnage qui est au pouvoir, vous voyez. Et pourquoi choisir ça? Parce que c'est pas une décision, mais c'est plutôt un sentiment. J'écris pas. Je devais écrire un autre roman. Hein, et j'ai signé avec mes maisons de publication un autre roman sur Alexandrie. Et c'est une ville vraiment qui m'inspire. Mais à un moment donné, j'ai pas senti l'autre roman. Et j'ai senti que je dois écrire ce roman. J'ai changé. Alors, c'est toujours un sentiment qui vous inspire pour écrire le roman. Parce que le roman, c'est un peu, pour moi, c'est comme une histoire d'amour. On peut pas décider de tomber amoureux. C'est même dangereux de faire ça.
Alors, pourquoi c'est ce livre-là qui vous a choisi avec des personnages qui sont, pour la plupart, antipathiques, pas tous, hein. Il y a évidemment cette étudiante que l'on suit, la fille du général Alouani, qui est également étudiante en médecine et qui est quelqu'un de proche des insurgés, qui aimerait voir évoluer la société égyptienne. Mais dans l'ensemble, vos personnages sont des personnages extrêmement noirs, qui sont des personnages qui ne laissent pas espérer grand-chose pour l'avenir de l'Égypte.
Oui, mais quand même, je pense que la littérature était toujours comme ça. On écrit parce que quand la distance entre ce qui se passe et ce qui doit se passer devient vraiment grande, on écrit parce que on n'est pas d'accord. Alors, moi, je pense que, vous voyez, Liu Tolstoï, on l'a demandé une fois, le grand romancier russe. Mais pourquoi vous écrivez toujours des gens qui sont misérables, qui souffrent, et vous n'écrivez jamais sur des gens qui sont contents? Il a dit parce que la réponse était parce que les gens contents se ressemblent et ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour écrire sur eux, vous voyez. Et je suis absolument d'accord.
Alors pourtant, le général Alouani, il est plutôt content, je vais citer un extrait de votre livre Ala El Aswani. « Dieu a accordé au général Alouani une santé excellente et des biens en abondance. Il vit avec sa famille dans une villa du quartier de Mougama qui est en vérité un énorme palais où se trouve une piscine, un terrain de tennis, un verger. » Et alors, la particularité de cet homme, c'est qu'il a un rapport qu'on pourrait qualifier d'extrêmement hypocrite avec la religion, c'est-à-dire qu'il estime être un très bon musulman, alors que par exemple, il torture, et l'une des activités consiste à justifier la torture, ses différentes exactions, à l'aide de versets du Coran qu'il va tordre, qu'il va surinterpréter, comme si le livre justifiait ses actions maléfiques.
Mais ce n'est pas le livre, mais c'est la religion. Vous voyez, le problème, c'est que j'écris avant. Le problème, c'est qu'on n'a pas en Égypte des gens corrompus qui prétendent être religieux. Mais notre problème, c'est que nous avons des gens, souvent, nous avons des gens corrompus qui sont vraiment religieux. C'est ça le problème. C'est que leur interprétation de la religion, c'est une interprétation qui justifie la torture, la corruption. Ça ne veut pas dire que la religion justifie la corruption ou la torture, mais leur interprétation à eux. Alors, monsieur le général Alouani, c'est un exemple. Lui, vraiment, quand il fait les prières, il pleure. Il est vraiment, il aime Dieu et tout, mais il utilise la religion pour justifier la corruption et justifier la torture. Lui, il torture les gens pour se défendre, parce qu'il présente une classe des élites qui a tout. Hein, ils ont tout et ils vont garder le pouvoir pour se défendre, vous voyez, pour ne pas perdre leur vie, la vie qu'ils ont. Et il utilise la religion pour couvrir ses crimes.
Et puis, à côté donc de cette classe, qui est donc une classe corrompue, une classe violente, se trouvent des étudiants qui incarnent l'espoir, cet espoir qu'on a vu naître en 2011, notamment en Égypte. Il y a par exemple Asma et Mazen qui symbolisent la nouvelle jeunesse égyptienne et qui vont symboliser au fil de ce roman « J'ai couru vers le Nil » la désillusion, les désillusions de cette jeunesse, Alaa El Aswani.
Oui, le miracle de l'Égypte, c'est les jeunes, vous voyez. On ne doit pas oublier que 60% des Égyptiens sont au-dessous de l'âge de 40 ans. Alors, il s'agit là d'un peuple jeune. Et ce sont ces jeunes qui ont fait la révolution. Et ce sont ces jeunes qui veulent vraiment un changement. Et qui ont payé le prix du changement. Et qui ont été trahis par cette alliance militaire islamiste que j'ai décrite dès le commencement. Alors, c'est pour cela que, malgré le fait que ce roman peut être un peu pessimiste, je suis optimiste. Pourquoi ? Grâce à ces jeunes. Parce que ils ont le futur. Ils ont une vision très clair de ce qu'ils vont faire. Et là, la dictature qui est au pouvoir maintenant, elle met tous les jeunes en prison parce que elle comprend, cette dictature, très bien que vraiment c'est une menace, ces jeunes, hein, parce que ils veulent vraiment un changement. Ils ont déjà payé le prix.
Pourquoi l'avez-vous raconté ainsi, cette histoire? C'est un roman choral, je l'ai dit. C'est un roman où vous utilisez différentes techniques de narration. Il y a des lettres, il y a des descriptions, il y a beaucoup de dialogues également à la Ala El Aswani. Pourquoi avoir choisi de faire un roman et pas un essai?
Parce que je suis romancier, à la base.
Vous écrivez aussi un essai, d'après
oui,
ce que j'ai cru.
Oui, mais je suis romancier. A, B aussi, parce que je pense que le roman, c'est quelque chose, c'est un texte vivant, si vous voulez. Je suis pas historien, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre d'analyse politique. Vous allez trouver tout dans le roman, parce que la littérature, pour moi, c'est une vie sur les papiers qui ressemble à notre vie quotidienne, mais qui est plus profonde, plus significative et plus belle. Alors, moi, je fais une vie, j'essaye de faire une vie sur les papiers. Et c'est cette vie qui va transmettre tout ce que je veux dire, vous voyez, selon les personnages. Les personnages doivent être vivants.
Comment avez-vous travaillé sur la forme ? J'ai lu que vous écriviez tôt le matin, puisque l'après-midi, lorsque vous êtes au Caire, vous êtes dans
vous
votre cabinet
dentiste, oui.
de dentiste. Autrement dit, comment avez-vous fabriqué ce roman ?
Il s'agit toujours, selon mon expérience, d'essayer d'imaginer les personnages. C'est ça, on commence par les personnages. Pour moi, je commence par les personnages. Si le personnage ne devient pas vivant, j'arrête d'écrire. À un moment donné, avec tous les détails que je peux imaginer, je sens à un moment donné que le personnage existe. Il reste invisible, mais il existe pour moi. Je sens que les personnages sont avec moi, autour de moi, en écrivant. Et quand j'ai ce sentiment que maintenant je peux connaître, selon mon expérience, ça veut dire que j'ai à la main un roman. Et je dois continuer l'écriture.
Mais comment vous faites avec des personnages qui ne sont pas sympathiques ? C'est un euphémisme, comme le général Alouani qui incarne la dictature à la fois d'avant et la dictature d'Al-Sissi. Comment vous faites pour avoir une intimité avec ces gens-là ? Vous les connaissez en Égypte ?
Oui, mais vous parlez des personnages ou des personnes ? Les deux. Oui, je connais, je suis très ouvert. Cette conversation, par exemple, de justifier la torture avec une interprétation religieuse, j'ai eu cette conversation avec un général, en réalité. J'ai posé la question, monsieur, pourquoi vous torturez ? Alors il m'a répondu, monsieur, vous êtes musulman ? Et j'ai dit oui. Il a dit très bien, vous devez lire votre religion, parce que si on est contre le pouvoir dans son interprétation de l'islam, c'est pas l'islam ça, hein. On doit te tuer, et moi je ne tue pas. Si je fais c'est un peu Molière, vous voyez, si je fais un peu d'électricité, ou ce que vous appelez torture, hein, c'est moins de ce que je devais faire, vous voyez. Alors ça m'a inspiré, c'est quelqu'un qui justifie une torture terrible par son interprétation de la religion, alors j'ai utilisé ça alors on doit être toujours ouvert comme romancier, parce que chaque détail, chaque rencontre avec quelqu'un peut bien vous inspirer pour créer un personnage. Alors même il y a les ouvriers là. J'ai travaillé comme dentiste dans une usine au Caire, et j'étais inspiré par une expérience réelle. Vous voyez,
Alaa El Aswany, J'ai couru vers le Nil, c'est le grand roman que vous publiez aux éditions Actes Sud. Il est traduit de l'arabe par Gilles Gauthier. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. On va continuer à évoquer la littérature et puis aussi l'état de l'Égypte, la manière dont le peuple doit composer avec un dictateur comme Al-Sissi. Nous sommes en compagnie d'Alaa El Aswany. Vous publiez J'ai couru vers le Nil, un roman traduit de l'égyptien par Gilles Gauthier. C'est un roman qui est un roman choral, comme je l'ai dit. Autrement dit, on y entend s'exprimer plusieurs personnes qui incarnent l'Égypte d'aujourd'hui, aussi bien un général tortionnaire qu'une étudiante pleine d'espoir. On les suit à partir de 2011 et on voit cette révolution et ces désillusions. Le fait d'écrire en arabe, vous parlez parfaitement français. Quand vous écrivez en arabe, comment la langue se plie-t-elle à vos souhaits ? Quelle différence entre l'écriture en arabe et ce que l'on peut lire en français ?
La différence n'est, pour moi, la différence n'est pas visible. C'est que moi, j'ai appris le français et l'arabe quand j'avais 4 ans au même jour. Alors je m'exprime en français sans aucune difficulté. Mais je pense que, parce qu'il s'agit d'une société arabe, une société égyptienne, des personnages égyptiens, je pense que en écrivant en arabe, il y a toujours quelque chose qui n'est pas visible mais qui existe dans le texte, une des espaces, une capacité, des moyens pour vraiment attraper, arriver au personnage en arabe.
Il y a quelques jours, je recevais Boualem Sansal, l'écrivain algérien. Il y a une école d'écrivains algériens qui, eux, écrivent en français pour des raisons historiques évidentes. Les écrivains dont vous vous sentez proches, justement, les écrivains du monde arabe, est-ce que ces écrivains algériens qui écrivent sur des thèmes qui ne sont pas très éloignés des vôtres, par exemple le poids de la religion, la difficulté de résister à l'obscurantisme, la difficulté également de composer avec des régimes qui sont des régimes dictatoriaux?
Oui, ça m'est égal, la langue, mais il s'agit d'un texte. Si c'est, moi je lis aussi, et j'écris en anglais. Alors c'est pas la langue qui compte à mon avis, mais c'est le texte littéraire. Et aussi, il s'agit toujours d'une souffrance humaine, si vous voulez. Soit en Algérie, soit en Égypte, soit en France, la littérature c'est l'art des êtres humains. C'est l'art à travers lequel on peut vraiment décrire une souffrance humaine, on peut sentir comment les autres souffrent. Alors moi, Boualem Sansal, qui est un ami, moi, et à mon avis un grand écrivain, mais aussi il s'agit d'une souffrance humaine. Même à cause du fanatisme, à cause de l'extrémisme, à cause de la religion, à cause de plusieurs sujets, mais à la fin, il y a un être humain qui souffre. Il y a un écrivain qui essaye de transmettre son message.
Qui sont les écrivains qui vous ont formé à la Soigny?
Ah, mais j'étais toujours formé et très tôt par la culture française. Alors c'était le rôle de la culture française était essentiel pour moi parce que j'étais au lycée français du Caire dès l'âge de 4 ans. Alors on a eu un programme très efficace de littérature française et je trouve maintenant.
On lisait quoi à l'époque?
Je trouve maintenant je découvre des influences. Par exemple, je me souviens très bien la première fois qu'on a étudié, j'avais 10 ans, qu'on a étudié les caractères de la Bruyère. J'étais impressionné par le fait que on peut dessiner un visage avec les mots. Et je trouve cette influence quand je décris mes personnages maintenant. Vous voyez, La Fontaine, les fables de La Fontaine. On devait étudier les fables de La Fontaine et j'ai utilisé La Fontaine en écrivant des textes littéraires sur les animaux qui ont eu une influence énorme en Égypte. Parce que j'ai présenté Monsieur Moubarak à l'époque comme un éléphant très vieux et le fils comme le petit éléphant et le régime comme des chiens très méchants. Alors, c'est le ministre d'Intérieur, à l'époque, il s'est mis en querelle et parlé au rédacteur en chef en disant, mais comment il peut nous présenter comme des chiens, vous voyez? Et c'était toujours La Fontaine qui m'a appris, moi, que on peut dire tout à travers des contes d'animaux, vous voyez? Alors, l'influence de la culture française est énorme.
Dans votre dernier roman, J'ai couru vers le Nil, il y a un véritable art des monologues intérieurs, de la manière dont vous pouvez vous emparer en fait de réflexions, de descriptions aussi qui sont en réalité très éloignées des vôtres. Je vais prendre un exemple. Vous citez par exemple la manière dont on juge une présentatrice de télévision qui est présentée comme étant très belle, elle s'appelle Nourane, et vous dites quelles sont les rumeurs et les préjugés qui sont colportés à son sujet. Vous dites par exemple, on dit que Nourane assiste aux leçons du cheikh Chamel simplement pour donner l'impression qu'elle est pieuse et que si elle pleure pendant la leçon, ce n'est pas par humilité, mais pour attirer les regards. Et vous expliquez ce que les gens pensent à ce sujet, c'est-à-dire que pour vous, ce roman, c'est aussi la possibilité d'être la voix de voix très différente de la vôtre à la El Soigny.
Oui, c'est une diversité que je pense que c'est la littérature comme ça. La littérature ne doit pas vraiment être une seule opinion. L'article doit être une seule opinion. Si on parle d'un article, ça veut dire qu'il y a un sujet. En abordant ce sujet, je vais expliquer mon opinion à moi. Mais la vie Je répète que la littérature, c'est une vie sur les papiers, plus significative, plus profonde et plus belle. Alors la vie est beaucoup plus compliquée. Il y a toujours cette diversité. Il y a toujours des opinions. J'essaye vraiment de transmettre cette diversité. Et c'est, par exemple, avec Nouran, c'est au lecteur d'évaluer Nouran. C'est pas moi qui va évaluer. Je vais dire les opinions et à la fin, les lecteurs vont comprendre quel genre de personne est-elle.
Et puis, il y a, au travers de Nouran, au travers du portrait d'une servante, au travers du portrait d'une étudiante, toute la difficulté d'être une femme aujourd'hui en Égypte, autrement dit, de subir la domination masculine et de subir aussi la domination religieuse.
Et politique. Mais absolument. Mais c'est un problème, parce que si on est femme en Égypte, si on est copte, si on est... Alors, il y a toujours on a des problèmes pour plusieurs raisons. Il y a le problème de la dictature citoyen. Il y a un problème dictature citoyen et femme. Il y a un problème dictature citoyen et chrétien. Ou bien, alors, il y a toujours ça, la dictature, c'est contre tout le monde. Vous voyez, aussi, on est coincé en Égypte. Et j'espère que ça peut être transmis à travers mon texte, mon livre. C'est que dès 1952, on a été toujours coincé entre les militaires et les islamistes. Avant, l'Égypte a vécu une période, une époque libérale, vraiment, où il y avait mouvement de libération des femmes et tout. On ne sait pas ça souvent en Égypte, à l'Occident. Mais on a été toujours coincé entre militaires et islamistes. Et ils partagent beaucoup de choses, vous voyez. Ils ont toujours eu un cycle de conflit, alliance. Nous sommes coincés entre les deux. Alors, le sujet de la femme n'est pas loin de ça, parce que soit islamiste, soit militaire, ils ne pensent pas d'une manière positive du rôle de la femme dans la société.
Et puis, toujours dans votre manière de peindre la société égyptienne, Ala El Aswani, est l'un des points universels. Alors, cette fois-ci, entre les hommes et les femmes, c'est la terrible complexité de la sexualité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui provoque beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration, en tout cas dans la manière dont vous décrivez vos personnages avec leurs envies, leurs désirs, leurs fantasmes.
Oui, parce que la sexualité, c'est un espace littéraire. On ne fait pas l'amour seulement pour le désir, mais il y a plusieurs motivations pour un être humain de faire de l'amour. C'est que on peut faire de l'amour parce qu'on est frustré, on cherche une mère, on cherche une identité, on cherche vraiment une compagnie humaine pour plusieurs choses. Et le moment sexuel, si vous voulez, le moment de relation physique, c'est un moment très profond. Il y a des couches, on peut pas résumer comme ça, on fait l'amour et... Non, il y a vraiment des couches parce que c'est une expérience humaine unique. Et ça m'étonne pas que ça soit vraiment le sujet préféré pour plusieurs romanciers. Vous voyez, parce que c'est une découverte. Et j'essaye de faire ça, de découvrir mes personnages à travers leurs relations physiques.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour, c'est un espace littéraire?
C'est un espace, c'est une motivation, c'est une inspiration. Parce que il s'agit en littérature pas de ce qu'on dit, mais ce qu'on cache, ce qu'on dit pas. Ce qu'on essaye de cacher, c'est ça la littérature. C'est le petit enfant qui dit la vérité devant le roi. Vous voyez? Alors c'est pour cela que chaque roman, j'ai l'honneur d'avoir cette réaction, chaque roman qui fait des problèmes, je deviens fier de mon roman. Vous voyez? Alors tous mes romans ont fait des problèmes.
Bon, mais alors, justement, parce que les problèmes, alors vous avez des problèmes en tant que romancier, puisque vous êtes romancier à la Soigny. Vos personnages, ils ont des problèmes en tant qu'être humain, ce sont des êtres humains. Et alors, éventuellement, on pourrait se dire, il y a une possibilité pour eux, c'est la fuite vers le privé. L'espace privé qui, lui, est protégé des assauts de la dictature, des assauts de la société. Eh bien, pas du tout. Ils se retrouvent avec, finalement, autant d'embarras, autant de frustrations, autant de blocages au sein de leur vie privée. Et c'est très bien symbolisé par leur frustration sexuelle.
Absolument. Absolument, parce que avec la dictature, il y a une tendance toujours de faire un petit monde. De se protéger en faisant un petit monde. Ça veut dire que vous restez comme citoyen, comme égyptien, avec votre famille, et vous oubliez ce qui se passe en politique, et vous restez, vous gardez votre famille, vous travaillez pour élever vos enfants et tout. Mais ça va pas marcher parce qu'à un moment donné, ce qui se passe dehors va vous arriver. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que les gens qui essayent de ne rien faire pour résister à une dictature, ils pensent qu'ils peuvent vraiment avoir un petit monde comme ça sans problème. Et ça n'arrive jamais, parce qu'à un moment donné, la dictature qui est dehors va arriver chez vous.
Et dans ce roman, qui est un roman choral, vous attachez à donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix et qui le disent. Je vais lire un extrait de votre roman « J'ai couru vers le Nil » à la El Aswani. Il s'agit donc d'une étudiante qui est en correspondance avec un étudiant et elle lui dit la chose suivante. « Je ne suis vraiment rien du tout et toi tu n'es rien du tout et tous les jeunes de la Révolution ne sont rien du tout. Ils ont toujours fait, vous parlez des militaires du régime, ils ont toujours fait et ils continueront à faire ce qu'ils veulent. Ils nous tueront, nous outrageront, tireront sur nos yeux et personne ne les jugera, personne ne leur demandera de compte. Tu sais pourquoi ? Parce que nous ne sommes rien, parce que nous avons fait une révolution dont personne n'avait besoin et dont personne ne voulait. »
Oui, mais c'est pas mon opinion du tout. C'est l'opinion de Asma, hein, mon personnage. C'est que elle est vraiment frustrée. Elle n'est pas optimiste du tout. Elle pense que c'est fini. Hein. Moi, je suis optimiste. Je pense pas que c'est fini.
Pourquoi dit-elle que personne ne voulait de cette révolution ?
C'est elle. Parce qu'elle était torturée. Oui, elle avait cette... Vous voyez comment...
Non, mais parce qu'elle pense aussi qu'elle est coincée entre les islamistes et les militaires.
Ah, et bien aussi parce qu'elle pense qu'elle n'a pas été soutenue par le peuple. Et elle a défendu les droits du peuple. Elle a payé un prix pour que le peuple soit vraiment respecté comme des êtres humains. Et quand elle a été torturée, quand elle a été arrêtée, le peuple ne l'a pas soutenue. Et ça, c'est un sentiment qui existe parmi les jeunes révolutionnaires. Mais je dois ici dire que le romancier, l'opinion du romancier, c'est pas l'opinion de ces personnages. Ça, c'était important à comprendre. Parce que moi, je suis optimiste. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va dépasser ce qui se passe.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que j'ai lu l'histoire. Parce que je prends, par exemple, la révolution française comme modèle. La révolution française, après 10 ans, hein, c'était quoi? C'était l'enfer en France. Hein. Mais à la fin, il y a un changement créé par la révolution, et ici, il ne s'agit pas seulement du politique. Quand on dit les résultats de la révolution, les gens réfléchissent, pensent que c'est seulement la politique. Ça, c'est pas vrai. On a eu des changements qui sont pas politiques, qui sont moins visibles que le politique, mais qui sont très importants. Maintenant, par exemple, les imams. J'ai présenté un personnage, un imam hypocrite, un tartuffe.
Oui, qui est très drôle, parce qu'il faut dire aussi que c'est un livre très drôle. Vous n'hésitez pas à utiliser effectivement l'humour. Et votre personnage d'imam, il est gratiné, puisque c'est un ancien guide touristique, ancien gérant de salle de sport. Il est devenu prédicateur star. En quelque sorte, on peut dire qu'il a tout raté, sauf au moment où il est devenu un prédicateur religieux. Et alors là, ça lui a réussi.
Ah oui, un prédicateur religieux avait un millionnaire. Et maintenant, avant, quand je disais ça des imams, j'écrivais ça dans un roman, la réaction était, il y avait pas mal de gens qui se mettaient en colère en disant, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils sont des gens de Dieu et des choses pareilles. Maintenant, on ne dit plus ça. Parce que c'est une découverte grâce à la Révolution. Maintenant, est-ce que cette question du voile en Égypte, on ne discute plus? Il y a des femmes voilées, des femmes qui sont femmes voilées. Il y a des femmes qui étaient voilées, mais qui ne sont plus voilées. C'est grâce à la Révolution qu'on voit la femme comme ça. C'est grâce à la Révolution qu'on voit que le président n'est pas notre père, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui travaille pour nous. Ce sont les leçons de la Révolution.
Alors, il y a quand même quelque chose qui n'a pas changé depuis la Révolution. Vous racontez comment, par exemple, le cheikh Chamel, donc c'est ce prédicateur religieux qui est incroyablement hypocrite, puisque son mode de vie est en contradiction absolue avec ce qu'il professe, la manière dont il viole les femmes, la manière dont il s'empare d'elles comme un prédateur, tandis que de l'autre côté, les militaires, eux, sont des prédateurs, notamment des richesses du pays.
Oui.
Et cela se lit d'ailleurs dans votre écriture, vous incarnez la manière dont ces gens-là volent le pays, occupent l'espace et finalement font tout pour que rien ne change.
Oui, rien ne change pour eux, mais c'est ça.
Donc rien ne change pour le peuple.
Exactement. Ils veulent garder cette classe des élites avec les fortunes, avec tous les privilèges, et c'est bien. Et on peut, après garder cette classe, après garder le pouvoir, on peut discuter quels sont les problèmes du peuple. Et alors, les problèmes du peuple égyptien, c'est cette classe. Le problème des peuples égyptiens, c'est le pouvoir. Vous voyez, et on peut rien changer sans changer le pouvoir. Et c'était très clair pour la Révolution dès le commencement.
Et alors, pourquoi celle-ci, malheureusement, hélas, pour l'instant en tout cas, n'a pas réussi à changer le pouvoir? Je sais que vous êtes un grand lecteur de la Boétie qui incarne cette volonté de dire au peuple, finalement, si vous voulez être libre, vous pouvez être libre. Pourquoi un si petit nombre de personnes dans votre roman et dans l'Égypte réelle tient le pays en coupe réglée?
Oui, mais la Boétie, c'était la leçon de la Boétie, un grand penseur, parce qu'il a dit, et très tôt, c'est que la dictature, c'est pas vraiment, c'est pas un problème du dictateur, mais c'est un problème où il y a deux côtés. Il y a un côté le dictateur, l'autre côté le peuple, qui permet la dictature, ou qui a besoin par voie de la dictature. Vous voyez? Alors, c'est une idée vraiment très profonde. Moi, j'ai écrit un livre qui va sortir en anglais sur la dictature, et j'ai commencé le livre par Étienne de la Boétie. Parce que c'est une idée vraiment très importante. Alors, je pense que le problème, c'est que, il y a une dictature, et le peuple qui a peur. Il a peur de la dictature. Il a peur des conséquences. Vous voyez. Mais ça ne peut pas durer longtemps. Hein? Comme je viens de dire, une histoire de la Révolution, c'est pas un an, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans. La Révolution, c'est une voie. Dès qu'on commence cette voie, ça veut dire que on va arriver au changement.
Mais aujourd'hui, avec ce roman extrêmement désillusionné que vous publiez à la Soignée, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le président Sissi incarne une dictature encore plus dure que celle de Moubarak?
Absolument. On avait toujours une dictature militaire au pouvoir dès 1952, mais avec des versions différentes. Non, cette dictature est plus dure. Et plus dure parce qu'il y avait une révolution. Alors, quand il y a une révolution, le pouvoir continue, il se comporte comme un tigre blessé. Et le tigre blessé est beaucoup plus dangereux qu'un tigre qui n'est pas blessé. Vous voyez? Le tigre blessé, il sent tout le temps qu'il est menacé. Il a été blessé quand même, ça veut dire qu'il n'est pas très fort. Vous voyez? Alors, il commence tout le temps à attaquer tout le monde. Et c'est exactement la dictature qui existe en Égypte.
Et alors, comment jugez-vous la répression dont était l'objet, dont sont l'objet les frères musulmans, la manière dont Mohamed Morsi, qui est donc le chef de la confrérie islamiste des frères musulmans, qui a été le premier président élu démocratiquement en Égypte, c'était en 2012, la manière dont il a été renversé par l'armée. Est-ce que là, vous réussissez à choisir un camp entre Morsi et Sissi?
Je ne trouve pas vraiment une grande différence, parce que même quand Morsi était au pouvoir, les frères musulmans ont gardé leur alliance avec les militaires. Alors le conflit qui existait, c'était un conflit qui a commencé par le peuple, parce que, et ça c'est pas très clair là, c'est que Monsieur Morsi, toutes les élections des frères musulmans, malheureusement, on achète les votes des pauvres, vous voyez. Et ça c'est, on a des vidéos, on a tout.
Moi, je considère... Donc elles étaient truquées?
Non, c'est pas truqué. C'est pas seulement truqué. C'est pas question de truquer. C'est question que on va dans un village et on paie les gens les plus pauvres, hein, pour qu'ils votent frères musulmans. Mais ça, c'est une autre histoire. À un moment donné, il a fait un décret à Monsieur Morsi, je pense novembre 2012, selon laquelle il a annulé la loi égyptienne, il a mis les décisions présidentielles au-dessus de la loi. Alors, il y avait des manifestations, des millions qui voulaient des élections présidentielles anticipées. Et je trouve ça très démocratique, parce qu'on n'avait pas de parlement, vous voyez. Alors, à un moment donné, il y avait les sit-in, et ces sit-in ont été massacrés. C'est vraiment un grand drame. Et j'étais toujours contre, tout le monde était contre le massacre. Mais de toute façon, on doit dire que même les sit-in n'étaient pas pacifiques, parce qu'il y a, il y avait un rapport de Amnesty International, international le 3 août 2013 sur les sit-in. Mais de toute façon, l'armée devait, à mon avis, préserver une transition démocratique, mais malheureusement, l'armée a pris le pouvoir, vous voyez.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, par exemple, partisan d'une réconciliation avec les frères musulmans, vous qui êtes laïque?
Mais je comprends pas l'idée de la réconciliation, parce que si on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi, vous voyez. Ou bien ils sont, moi je pense que la loi en Égypte, il n'y a, les frères ne sont pas jugés d'une manière juste. Les frères et les autres. Vous voyez, parce que c'est ça, hein, c'est ça la vérité. Moi je défends les droits des frères musulmans comme les autres, les droits de l'homme. Soit frère musulman, soit communiste, pour tout le monde.
La France a été très peu critique avec le régime de Sissi. Sissi a été reçu par Emmanuel Macron, c'est notre allié, on lui vend des armes. Comment jugez-vous cela?
Parce que la question, est-ce que les gouvernements occidentaux, la France est inclus, présentent les principes ou présentent les intérêts? C'est ça la question. À mon avis, il présente les intérêts, souvent.
Alors, le gouvernement français répond que Sissi, par exemple, dans le Sinaï, est en train de mener une bataille contre les islamistes, contre Al-Qaïda, et qu'il y a donc urgence à aider cet homme qui est, en quelque sorte, le moindre mal.
Oui, mais écoutez, moi je veux pas, c'est pas seulement du président Macron, c'est le président de tous les gouvernements occidentaux qui ont soutenu Moubarak, vous voyez, pendant des années, hein. Et chaque fois que il faisait des choses contre les droits de l'homme, on disait que oui, mais la démocratie, la voie de la démocratie était très longue, et des choses pareilles. Alors moi, je fais pas confiance aux gouvernements occidentaux pour que ces gouvernements défendent les principes, ils défendent les intérêts. Ceux qui défendent les principes, ce sont les peuples occidentaux et pas les gouvernements.
Et le peuple égyptien, celui que vous présentez dans « J'ai couru vers le Nil à la El Aswani », c'est un peuple désillusionné aujourd'hui. Que peut-il encore espérer? À quoi rêve cette étudiante que vous décrivez, celui qui correspond avec elle, qui fait des études de médecine? Je ne dévoile pas la fin du roman, mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer?
On voulait la révolution dès le deuxième jour, a écrit à la place Tahrir ce qu'on veut. On voulait un État laïque, on a écrit ça, laïque, qui n'est pas religieux et qui n'est pas militaire. une vraie démocratie. On doit être, on a écrit ça, j'ai écrit ça moi-même, on doit être traité comme des êtres humains.
J'ai couru vers le Nil, c'est votre roman publié aux éditions Actes Sud à la Soignée.